Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients au bout.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good.
Ah là, c'est bon.
On a toutes et tous des images mentales de grandes tablées. Le dimanche midi, lors de déjeuner avec la famille élargie, quand on jouait avec les cousins pendant que les grands s'activaient en cuisine, les barbecues l'été, quand même la rallonge ne suffit pas à agrandir la table et qu'on doit déplier une nappe sur une vieille planche en bois et des tréteaux trouvés dans le garage, mais aussi la cantine scolaire et ses plateaux en plastique, la soupe populaire sur le parvis de la gare certains soirs d'hiver ou encore les célébrations communautaires dans les salles de fête. Cuisiner pour beaucoup, genre pour plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, ça n'est vraiment pas comme cuisiner pour 3 ou 4 proches. Cuisiner pour beaucoup laisse rarement l'occasion de bouquiner à côté, improviser au-dessus de la cocotte ou encore assaisonner tranquillement. Non, qu'on se le dise, cuisiner pour beaucoup, c'est devoir faire preuve d'une organisation monstre, anticiper les doses, avoir une horloge dans la tête, garder un œil sur chaque étape de la préparation. Récemment, alors que la crise sanitaire du Covid-19 a fermé les bars et les restaurants, l'expérience collective de boire et manger a volé en éclats pour se transformer en une somme d'actes individuels, tout à coup astreints à résidence, reconfigurés par l'obligation de limiter les interactions sociales, confinés dans nos appartements, dans lesquels la cuisine est devenue une pièce se salissant 2 fois plus que d'ordinaire, tant on y a cuisiné, pâtissé et boulangé même pour certains. Pour autant, l'idée de se restaurer collectivement n'a pas faibli, car dans les hôpitaux et dans la rue, il a fallu s'organiser pour apporter un peu de réconfort aux soignants et soignantes en première ligne contre le coronavirus et faire preuve de solidarité pour aider les plus vulnérables d'entre nous à ne pas s'endormir l'estomac vide. Alors que le déconfinement s'enclenche progressivement, le moment est maintenant venu de lever la tête pour imaginer la suite, à commencer par l'été qui va sonner tout doucement les retrouvailles avec les proches. Il sera peut-être alors à nouveau question de sortir toutes nos assiettes et nos plus grands saladiers pour servir à manger à celles et ceux qu'on aime. Faire à manger pour ses potes, c'est ce que les Boozy Boys Barbecue, une brochette de 5 copains, ont commencé à faire il y a plusieurs années lors de week-ends à Boozy-la-Forêt dans le Loiret. Ensemble, ils ne se contentent plus de s'occuper du barbecue pendant les vacances, mais proposent désormais leur service lors d'événements qui dépassent leur cercle de proches. Nico, que j'ai rencontré il y a 10 ans en arrivant à Paris, et Pierre font tous les deux partie des Boozy Boys Barbecue. En deuxième partie de cet épisode, ils m'ont raconté ce qui pousse la bande de graphistes et d'architectes la semaine à poser des RTT pour bosser ensemble lors de gros week-ends prolongés.
En fait, la première fois qu'on a été payé pour un événement, on était comme des oufs, parce que avant, c'était sur nos économies, comme si on devenait pro, quoi.
Mais avant ça, j'ai skypé Jordan Moalim, journaliste et cuisinier à ses heures perdues. Pendant le confinement, Jordan fait partie de celles et ceux qui ont mobilisé leur carnet d'adresses pour créer une vaste chaîne de solidarité. Enrôlant avec lui amis et collègues dans son collectif Les Frères Lumière, Jordan a cuisiné pour les soignants et les plus démunis, le tout grâce au concours d'acteurs de la gastronomie entre les dons de denrées alimentaires de grande qualité et la mise à disposition d'une cuisine de restaurant qui ne demandait qu'à être investie. Jordan nous raconte comment l'aventure des Frères Lumière a commencé.
En fait, l'histoire, elle a un peu commencé dans ma petite cuisine de 15 mètres carrés dans le 19e, du coup au métro Lumière. Il y avait des potes de la bouffe que je voyais un peu s'agiter sur les réseaux. Et je voyais qu'au tout début du confinement, ils avaient réussi à peu près à mettre en place une façon de livrer des repas aux soignants, tout en cuisinant depuis chez eux. Et je me suis dit, putain, c'est quand même pas bête, je cuisine tout le temps, j'adore ça. C'est pas mon métier, parce que mon métier, je suis quand même journaliste avant tout. Mais il n'empêche que j'ai envie de le faire. Et en plus, ma mère étant infirmière, intégrée dans les services du Covid, mon père militaire sur le terrain, bref, ça faisait tellement sens pour moi que je me sentais obligé de le faire quasiment. Et donc, tout a commencé un peu dans ma cuisine un matin où je me suis dit, bon, allez, je vais faire des bolognaises pour 30 personnes. Donc, j'ai fait un vrai ragoût à la bolognaise parce que j'ai une passion pour les pâtes, que j'ai envoyé dans un service d'hôpital. Et après, au fur et à mesure, tout a grossi très, très, très vite.
D'accord. Donc, ça a vraiment commencé dans ta cuisine où le premier truc que tu t'es dit, c'est vas-y, pour vraiment faire à manger facilement et pour beaucoup, je vais faire donc des pâtes, des bolognaises alors.
J'avais un peu l'image du plat très nourricier, très généreux, avec de la viande, des légumes qui ont bien mijoté, des pâtes, enfin bref, de quoi tenir toute la journée. Parce qu'au tout début, c'est vrai qu'on entendait beaucoup les soignants qui vivaient des moments difficiles. Et je me disais que c'était un petit réconfort qu'il fallait mettre en place. Et puis, très vite, on a fait grossir le truc, on a pris un labo. Enfin bref, tout s'est très, très vite mis en place. Et aujourd'hui, on en voit... On est passé de 20-30 couverts dans ma petite cuisine. Et aujourd'hui, on en voit quasiment 250 par jour, voire 300 par semaine. Enfin, par jour, quoi. Donc, c'est assez incroyable.
Ah oui, il y a eu clairement un gros changement d'échelle. Et d'ailleurs, donc je t'ai eu ce matin par texto et à ce moment-là, tu me disais, bon, bah là, je m'apprête à faire un couscous pour 500 personnes. Quoi, donc
Ouais, grave. En fait, le truc, c'est que donc, les Frères Lumière, on a créé ça. En fait, on s'est dit qu'il était possible pendant cette période un peu d'urgence et cette période un petit peu de crise de faire ce qu'on appelle du déplacement de fonction. C'est-à-dire qu'on a tous un petit peu des compétences dans notre domaine, évidemment, mais aussi ailleurs, qu'on n'utilise quasiment jamais dans la vie de tous les jours, à part à petite échelle. Moi, je cuisine pour faire à manger à mes potes. Séverin, il cuisine lui. Enfin, il fait un peu de logistique au niveau de la boîte. Il a 20 ans d'expérience dans une boîte de prod, donc il sait à peu près organiser les choses. Et en fait, on s'est dit, bah, faut que ces savoir-faire qu'on a, qu'on les mette au service de l'urgence, en fait, parce qu'il y a une urgence en ce moment. Les soignants avaient triplé en termes d'effectifs. On avait besoin de faire à manger pour ces gens-là, de les réconforter, parce que c'est eux qui étaient au front. Et puis très vite, en plus, une deuxième grande cause s'est mêlée et nous est paru assez évidente, parce que en temps normal, beaucoup de gens ont faim, malheureusement, en France. Les familles précaires ont du mal à se nourrir. Et là, avec toute la fermeture des points de distribution, avec l'arrêt des petits jobs que les gens faisaient effectuer toute la semaine et en fait qui gagnaient pas beaucoup d'argent avec ça, en fait les gens qui étaient déjà précaires avant le confinement se sont retrouvés encore plus précaires pendant le confinement et donc ont quasiment plus se nourrir, quoi. Donc là on a vu les assos qui sont montés au créneau pour essayer de les nourrir, mais les Restos du Cœur avaient fermé certains points de distribution, enfin toutes les habitudes avaient été chamboulées et les gens avaient littéralement faim en France en 2020, quoi. Et nous, on s'est rendu compte de ça et ça nous a vraiment... C'était une violence sans nom parce que, à partir du moment où on a mis le doigt dans le grenage et qu'on a dit, OK, les gars, nous, on va se débrouiller pour faire des repas, on a eu des appels d'assaut tous les jours pour nous dire, les gars, on a besoin de vous, quoi. Faites-nous à manger. Alors que nous, on débarquait dans le milieu associatif, vraiment, on était des bleus, quoi, dans ce milieu-là. Et ouais. Très vite, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de nous, on nous a demandé beaucoup de repas et c'était pas du confort, quoi. Parce que, pour les soignants, on apportait une certaine forme de réconfort toute la journée. Et heureusement, d'ailleurs, les 3/4, enfin 90%, je suppose, c'est peut-être une connerie, mais les soignants rentrent chez eux le soir, et même s'ils sont éreintés de leur journée, ils ont un chez eux, ils ont à peu près de quoi manger, ils gagnent un petit peu d'argent. Donc, bon, il y a quand même deux poids, deux mesures entre ces gens-là qui sont au front et qui travaillent très, très dur, et qu'on doit évidemment réconforter, et on l'a fait, pendant tout le confinement, avec grand plaisir. Mais il y avait aussi une urgence vitale, quasiment, de gens qui avaient faim. Et donc, nous, on a réussi maintenant à lier les deux. Et aujourd'hui, la part, entre guillemets, sociale des repas qu'on distribue, elle est largement majoritaire parce qu'on se rend compte que c'est absolument nécessaire, quoi. C'est indispensable même.
Donc, vous avez un peu déplacé le public, le curseur au niveau du public que vous avez aidé. Et aujourd'hui, vous aidez principalement des personnes précaires qui vivent dans la rue et des migrants à Porte d'Aubervilliers.
Exactement. En fait, on s'est dit que... un vrai collectif d'action, parce qu'en fait, c'est à peu près comme ça qu'on s'est créé, se devait d'agir là où il y avait des vrais besoins, quoi. Donc, du coup, les assos nous ont vite demandé, bah, les gars, nous, on a entendu parler d'un hôtel social à Montreuil où il y a 50 familles. Et le seul repas qu'ils ont eu la semaine dernière, c'est la boulangère du quartier qui a pu leur envoyer des baguettes et des sandwichs dans la semaine, une fois. Et t'as des gosses, t'as des adultes, etc. Et nous, quand on nous a dit juste ça, on a filé ce tuyau, on a filé juste un numéro, on s'est pointé là-bas avec 70 repas, et on a vu des gens hyper heureux de pouvoir manger. Surtout que nous, notre manière de faire à manger pour beaucoup, c'est comme si je faisais à manger pour ma famille, pour les 4 membres de ma famille, ou pour mes potes quand ils viennent à la maison. On a exactement la même exigence que pour des gens qui viennent au resto, etc. À chaque fois, je veux me dire, quand j'envoie les repas, que ce que j'envoie là, je suis hyper fier de l'envoyer. Et ils vont se régaler et ils vont avoir une expérience hyper chouette pour leur repas, pour leur dîner ou pour leur déjeuner. C'est toujours le truc qui nous, on a été intransigeants sur ça, parce que pour nous, c'était hyper important de se dire, bah voilà, on n'est pas, on a les moyens de faire les choses bien parce qu'on a un réseau grand qui nous a permis notamment, moi j'ai fait pas mal d'appels sur les réseaux et on a mobilisé sur les réseaux en fait pour agir un peu dans le réel, quoi. Et si tu veux, j'avais beaucoup de potes producteurs de légumes, producteurs d'huile d'olive, profil grec, producteurs d'épices, enfin des chineurs d'épices, à savoir Nomi, des gens qui avaient du fromage, des particuliers, le boucher de mon quartier, mon primeur. Tout ça, ils se sont tous mis un peu en branle pour me dire c'est quoi, vas-y, on te suit, on t'envoie des produits, vas-y. Et du coup, j'avais plein de produits d'un coup, il fallait les transformer avec. J'avais des super produits et il fallait les transformer pour des gens qui en avaient vachement besoin. Donc, on a toujours voulu en tout cas donner un peu l'expérience du restaurant à ces gens qui avaient faim et qui étaient dans une situation très précaire. Quoi.
Oui, donc vraiment autre chose qu'ouvrir des boîtes de conserve et puis faire une tonne de riz parce que ça cale. Quoi. Vraiment proposer des plats dont tu es hyper fier. Alors vas-y, donne-nous des exemples de plats que vous avez pu faire justement et de comment tu as pu improviser selon ce que tu recevais.
Franchement, il y a deux catégories de plats. Il y a des plats où je suis chanceux parce que j'ai à peu près ce que je veux, ou en tout cas je suis hyper à l'aise sur le registre de la camelote que j'ai dans la chambre froide. Et il y a des plats un peu one again, où on bricole des choses. Typiquement, j'ai reçu 10 kilos de Saint-Nectaire hier. Je me suis retrouvé avec 10 kilos. Bon, bah voilà, j'ai des pommes de terre. On fait une sorte de tartiflette au Saint-Nectaire avec des oignons, etc. Ça passe, c'est bon, mais c'est vrai que c'est un peu expérimental. Et sinon, les plats un peu chouettes qu'on a pu faire, j'ai fait un super pesto parce que mon pote Pierre Robin m'a envoyé de l'ail des ours directement de Normandie. Donc j'ai pu faire un super pesto d'ail des ours, j'en ai fait, je crois que j'ai fait 8 kilos de pesto que j'ai écoulé sur 2 semaines. Quoi. J'ai reçu un jour, par chance, encore une fois, béni des dieux, on a reçu 8 kilos de bœuf pour bourguignon, du coup j'ai fait un bœuf bourguignon de l'espace, nickel, qui a mijoté toute une après-midi, qui était hyper cool. Et après on s'est amusé, on a fait des croquettes de pommes de terre, là hier j'ai fait un poulet yassa, on a fait des banh mi, on a fait des sandwichs poulet mayonnaise. On a reçu pareil de la boucherie des jumeaux au Lila. On a reçu un jour pareil 15 kilos de merguez, etc. Donc on a envoyé un couscous pour 130. Là on en renvoie un d'ailleurs demain. Donc ouais, franchement on s'est plutôt éclaté. Et puis c'est marrant parce que moi ma jauge maximale de repas que j'avais à peu près dû concevoir dans ma tête, c'était pour 20 personnes quoi. Donc ouais. À la limite, j'ai fait du petit catering pour des potes chez eux, à faire du 20, 25 max, pour des grands repas en famille et tout, où j'envoyais du 20, 25 personnes tout seul. Et là, on s'est retrouvé du jour au lendemain à demander 200 couverts, 250 couverts, nos énormes marmites. Donc évidemment, tout est plus lourd, tout est plus fatigant, tout prend plus de temps, tout est, y a de la main-d'œuvre à avoir, il y a une vraie mise en place à préparer le matin. C'est du boulot. En vrai, c'est plutôt cool parce qu'encore une fois, on se donne du mal à faire les choses bien, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça change exactement, à part donc démultiplier les étapes, qu'est-ce que ça change de cuisiner pour beaucoup? Est-ce que c'est plus difficile d'assaisonner, de checker les cuissons
Alors, mon père est d'origine réunionnaise, ma mère est d'origine algérienne. Donc, si tu veux, on n'a jamais eu l'impression de faire... On ne fait jamais à manger pour deux. Quoi. Si on est deux, on ne fera pas à manger pour deux, on fera à manger pour six. Donc, dans tous les cas, j'avais toujours dans tête ce côté très généreux, très méditerranéen, où quand on fait à manger, on fait beaucoup. Donc effectivement oui ça remet un petit peu en le enfin comment dire il faut être un tout petit peu plus attentionné sur effectivement les degrés de cuisson sur l'ébullition parce que là on est dans un labo donc là en ce moment on a nos quartiers dans les locaux de la Traversée dans le 18e c'est un restaurant un petit bistrot un super bistrot d'ailleurs dans le 18e qui sont des potes à moi par ailleurs qui nous ont prêté ils ont un énorme labo tout neuf donc là on travaille là-bas. Et effectivement, il faut faire attention à bien lancer les cuissons, à être toujours vigilant, à anticiper. Surtout, c'est de l'anticipation à mort parce qu'en fait, tu ne peux pas cuire des pâtes pour 10 comme quand tu en cuis pour 300. Quoi. Donc, c'est-à-dire que ton eau, tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, il faut préparer plusieurs sets d'eau chaude, bien saler l'eau. Pareil pour la semoule. La semoule, ma couscoussière, moi, elle est faite pour 20 personnes maximum. Quoi. Donc, apprendre à faire la semoule à l'ancienne, à frotter à l'huile dans les énormes bacs gastro avec de l'eau chaude, comme au bled, quoi, quasiment. Donc, on se trouve à vraiment reprendre des vieilles techniques avec l'énorme louche, l'énorme cuillère en bois. Et on fait des grands ragoûts là-dedans, on fait des grandes préparations. Et puis, et du coup, en fait, on goûte tout le temps. Quoi. On est obligé de goûter tout le temps, vérifier. Vraiment, on lésine pas sur le goût. Quoi. On a des super épices, on a des super produits.
C'est vrai que j'ai toujours trouvé que les épices étaient le truc trop astucieux pour donner rapidement du goût à des grandes quantités.
C'est clair.
C'est trop malin, ça.
Oui, je suis tellement d'accord. Effectivement, je me rends compte qu'on apprend aussi à condimenter les préparations pour qu'elles aient d'un coup, boum, elles partent dans un goût hyper puissant, hyper franc. Franchement, en plus, on a la chance de travailler avec les épices de Nomi, qui sont quand même des chineurs d'épices incroyables. Ouais. Donc, on se retrouve avec un super Razzellano, du super Zaatar, du super Sumac. Parfois, on faisait des trucs tout cons, quoi. Je me réveillais le matin, je voyais que la chambre de froid était un peu vide. J'allais juste au supermarché chinois en bas du resto. J'ai acheté des énormes choux chinois. J'ai acheté un peu de fenouil. Et ça, je faisais une grande vinaigrette avec du super vinaigre de miel, du sumac, un peu de Zaatar. Et d'un coup, et des pois chiches. Et en fait, ça tient au corps, c'est croquant. Il y a du goût à fond parce que les épices sont complètement folles. On met plein d'herbes dedans. Pareil, les herbes aromatiques, je suis devenu complètement accro à ça, quoi. Je peux même pas m'en passer tellement c'est indispensable quand tu fais de la cuisine pour beaucoup d'avoir plein d'herbes aromatiques parce que le matin, on arrive et dans la journée, on passe toujours 10 bouquets de persil, 10 bouquets de coriandre, 10 bouquets de ciboulette, quoi. Et on les passe facile parce que dans toutes les préparations, pour mettre un petit peu de goût en touche finale sur les plats, pour faire mijoter avec la viande, enfin tout, en fait, c'est hyper, hyper important. Donc effectivement, tout ce qui permet un peu d'exhauster le goût des plats et de manière pas très compliquée, amener un petit peu les plats dans une autre dimension et essayer d'un petit peu de stimuler les recettes et de les repimper un petit peu avec beaucoup d'épices, effectivement, ça amène le truc d'un coup dans des proportions beaucoup plus grandes et c'est un vrai kiff, quoi. Et ouais. En plus, quand on en fait pour beaucoup, ça sent très très bon, très vite dans le labo. Donc on sent qu'on est sur la bonne voie, quoi. Donc,
En fait, tous ces exhausteurs de goût, ils permettent aussi, enfin les herbes aromatiques, les épices, ça permet aussi d'amener le plat dans un nouvel univers. C'est-à-dire que du coup, le plat, il est plus forcément lisible. Tu vas pas juste capter qu'il y a du riz et puis, je sais pas, une patate douce. C'est vraiment, tu vas découvrir quelque chose au moment de la dégustation, quoi. Donc t'offres un moment aussi aux gens.
C'est clair. Et puis on se dit, en fait, le truc, c'est que on veut que visuellement, de toute façon, après moi je conçois ma cuisine comme ça à chaque fois que je fais à manger, mais j'aime bien que visuellement, ou même sur le menu, il y a des choses annoncées, et qu'au goût, il y a quand même plein de surprises et plein de niveaux de lecture différents dans le plat, quoi. Typiquement, quand on va faire une... Tout à l'heure, je faisais une super sauce tomate parce qu'on avait des coulis de tomates italiens à passer, qui étaient hyper cool. J'avais de l'origan que mon pote de profil grec m'a ramené directement de Grèce, l'origan séché. Et j'avais des graines de fenouil d'Égypte. Et en fait, origan, graines de fenouil, juste avec une super sauce tomate, de l'ail, un peu d'oignon, des carottes. Et basta cosy, quoi. Ça m'a pris une heure à faire une sauce pour 90 personnes, quoi. Et une fois que je la laisse mijoter avec une super huile d'olive pendant quasiment une heure, et puis au bout d'une heure, voilà, on a des pâtes avec à la fois le petit côté herbacé, vivace de l'origan, le côté un peu anisé du fenouil, avec un peu de fraîcheur aussi qui est apporté par le fenouil. Je mets toujours un petit jus de citron à la fin pour rafraîchir le tout, et en fait la sauce, bah voilà, ça m'a pris 15 minutes à la préparer, ça a mijoté une heure, et c'est une petite bombe avec des pâtes et du parmesan dessus, bah c'est cosy, quoi. Les mecs, ils sont hyper contents.
Après l'enregistrement, avec Jordan, on a continué à parler de l'avenir des Frères Lumière. L'objectif est de faire perdurer l'action du collectif, même après le déconfinement. Par exemple, en proposant à des restaurants de céder leur cuisine à des bénévoles les jours où ils n'en ont pas l'utilité. Je trouve très chouette ce que Jordan raconte sur la rigueur et l'amour mis par les frères Lumière dans la préparation des plats distribués lors de maraudes. Habituellement, le flux tendu et l'urgence des soupes populaires ne permettent pas toujours un souci du détail culinaire. Pourtant, au-delà de l'aspect nourrissant d'un plat, il y a la fonction du goût qui fait ajouter à l'acte de manger celui de s'évader. Être surpris par ce qu'on mange, être transporté par une association originale d'ingrédients, être conquis par un assaisonnement, être touché par un dressage, tout ça fait partie du plaisir de manger. Ces plaisirs multiples, les Boozy Boys Barbecue, eux aussi, en savent quelque chose. Ce qui a commencé par une passion commune pour les grandes bouffes le week-end à la campagne entre potes, s'est transformé en solide collectif organisant ou accompagnant des événements, comme par exemple des mariages. Mais hors de question pour eux de sortir les petites verrines et les demi-pamplemousses typiques des buffets froids de catering. Les Boozy Boys Barbecue, eux, préfèrent proposer de bonnes ripailles à base de saucissons briochés, pulled pork, poivrons grillés, cochons cuits à la broche et brochettes de cœur de canard. C'est souvent généreux, grillé, doré, longuement mariné, bien assaisonné, plein d'herbes aromatiques, présenté sur de grands plateaux sans chichi. Allez hop, on écoute Nico et Pierre nous en dire plus sur les Boozy Boys Barbecue.
Chaque année, on fait des Boozy Summer, ça s'appelle, et en fait, on réunit tous nos copains. Et du coup, c'est là où on se crée vraiment un univers ensemble et on se fait une énorme bouffe sur un week-end. C'est un peu les prémices aussi de cuisiner pour beaucoup et de se mettre dans cette ambiance-là, de vouloir sortir des plats, faire plaisir à tout le monde, etc.
C'était quoi vos plats, du coup, les premiers trucs qui font plaisir à toute une tablée de potes?
Je me rappelle, les premiers, c'était l'hiver. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur des produits de la chasse. Je me rappelle de biches, de volailles, de gibier et tout ça. Le truc où vraiment ça a commencé, c'était pour le premier Boozy Summer, ce dont parle Nico. Et en gros, on voulait louer une rôtissoire pour faire un cochon de lait. Et quand on a vu le prix de la location, on s'est dit, vas-y, on la fabrique nous-mêmes. On a fabriqué la rôtissoire. À côté, on a fait des taboulés, des trucs un peu... Enfin, maintenant qu'on aime moins, tu vois. Et par contre, le cochon, ça a été un peu... Comment dire, il y a eu plein de péripéties. On a fait sauter les plombs, on a cramé le moteur. Il a fallu le tourner à la main. Mais c'était super drôle et super bon. Et à partir de là, 2 ans après, on a construit notre premier fumoir. Il y avait aussi ce rapport à fabriquer nos machines, à s'amuser, à chercher des trucs, comment surprendre nos invités.
Et c'est quoi vos grands classiques, bon, par exemple, de mariage? Quand t'as les bébés derrière au fourneau, c'est quoi un peu les grands trucs qui sortent souvent?
Je pense que les gens, ils veulent une pièce qui rôtit sur une broche quand ils nous appellent.
Puis c'est festif en plus à voir.
Ouais. Je pense qu'ils nous identifient vachement à la viande. Du coup, on nous demande souvent des choses au fumoir.
Il y a quand même barbecue dans votre blaze en même temps.
Ouais, c'est clair. Ouais, non, on ne l'a pas volé. Non, ils nous demandent surtout des choses au fumoir aussi, parce qu'il y a aussi du spectacle avec le fumoir. C'est une grosse machine qui est hyper belle. Et c'est une machine un peu texane. Du coup, c'est complètement texane d'ailleurs, mais c'est assez beau à voir. Ça sent bon. On ouvre le coffre. Il y a tout le monde autour qui regarde. Ça surprend. Les gens, ils viennent s'y réchauffer. C'est assez cool. C'est très convivial. Et du coup, on nous demande souvent ça. Souvent un porc rôti ou quelque chose comme ça. Mmh.
Ah, c'est vrai qu'on a bien l'identité un peu barbecue qu'on a dès le début, mais en parallèle, il y a aussi un truc, il y a le saumon qui revient souvent. On fait des saumons entiers mi-cuits au fumoir, et ça, à chaque fois, on le fait souvent pour le lendemain, pour un brunch ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est souvent demandé, ça a un gros succès. On fait aussi des fromages légèrement fumés, des choses comme ça. Qui sont souvent demandés. Mais c'est vrai que, encore une fois, l'aspect visuel, justement pour un mariage ou pour un gros événement, ça, c'est très important pour les clients.
Je pense que les gens doivent vraiment kiffer voir le truc quelque part près de la propriété ou dans le jardin, et ensuite le résultat dans l'assiette, quoi.
Ouais, carrément, c'est vraiment un photocall, en fait. Là, les gens, ils viennent se prendre en photo devant. C'est assez drôle, il y a les papis, les mamies qui... C'est assez marrant, du coup, c'est aussi très cool de faire ça pour ça. Et...
C'est quoi l'intérêt du fumoir aussi exactement dans la cuisson? Donc, par exemple, vous parliez du saumon, mais donc ça va vraiment permettre de cuire comme un peu à l'étouffée, tout en étant sur une fumaison, un truc comme ça?
Ouais, alors en fait, le fumoir, nous, on l'a fabriqué il y a 6 ans, je pense, un truc comme ça. Donc, c'était je sais pas, au moment, je pense, de la sortie des premiers shops, Steel Beast, Melt, tout, et donc c'est un fumoir texan. Et du coup, c'est une cuisson lente qui amène évidemment ce goût légèrement fumé, puisque ça cuit par la, pas la vapeur, mais la fumée justement, ouais, du bois qui passe dans le circuit. Donc ça attendrit la viande. Souvent c'est la viande ou ce que tu mets dedans. Le poisson, ça marche aussi. Tout ce qui est gras, en fait, parce que du coup le gras va suinter et va fondre lentement dans la viande. Et donc ça amène des choses très très molles.
En fait, le fumoir, c'est des cuissons qui sont hyper lentes. Donc c'est à chaque fois que tu mets n'importe quel ingrédient dedans, bon, à part des toutes petites choses comme du fromage ou quoi, mais sinon c'est 7h, 8h, 9h de cuisson, et tout de suite nous, ça nous rappelle des plats que nos grand-mères, que nos mères ont laissé mijoter pendant des heures, que tu manges le lendemain, que tu gardes, que tu laisses. Donc en fait, il y a dans cette cuisson qui est très lente à la fumée de bois de hêtre et à cette basse température, il y a aussi tout ce truc d'excitation, tu sais pas comment ça va ressortir, et ouais, tu laisses mijoter comme si tu laissais mijoter dans ta cocotte, et t'oses pas ouvrir le couvercle, t'oses pas rajouter des choses, tu laisses comme c'est, et puis c'est un peu magique. Toi, après, tu travailles tout ce qu'il y a autour pour bien l'accompagner.
Il y a un truc, en fait, qui se mérite un peu, alors, du coup,
ouais,
le clou
ça.
Du spectacle. Et... Ce qui, doit, d'ailleurs, doit vachement plaire, en fait, aux gens qui font appel à vous, parce que j'imagine que par rapport à l'offre des traiteurs classiques, où vraiment on a cette image d'Épinal, des petites verrines, mais limite en plastoc, avec cette espèce de crème un peu mousseuse, et puis des pointes d'asperges par-dessus. Mmh. Bon, ça arrive froid, c'est quelqu'un qui l'apporte, tout est mis sur une table. Là, vraiment, il y a un spectacle, en fait, avant de passer à table avec vous. On vous voit ouais. faire, en fait, aussi, on vous voit vous affairer derrière.
Ouais, après, j'ai l'impression aussi que c'est un truc de génération, parce que nous, notre génération, justement, on a cette image du traiteur, verrine, machin... Et quand tu parles avec des grands-pères ou des grands-mères, ils te racontent leur communion. Enfin, il y avait justement, pour revenir sur Depardieu, je crois que c'est dans une de ces émissions-là, sur, où ils parlaient de trucs, où ils mangeaient toute une après-midi, genre entrée, viande blanche, viande rouge, poisson, machin, machin. Et j'ai l'impression que nous, ce qu'on propose, c'est un peu pas ce retour-là, parce qu'on ne le voit pas comme un truc pathéiste ou quoi, mais où on essaie de ramener un côté... vraiment festif et un peu célébration de la nourriture pendant une journée et de le faire durer et du coup d'avoir vraiment ce kiff sur...
Mais c'est donc ouais, dans l'émission, dans la série documentaire à plein dents, là, effectivement, qu'on ouais, voit Depardieu. Il y a cette séquence un peu mythique où il est là, face cam, il est là genre... Mais les jeunes aujourd'hui, mais ils savent plus manger, ils savent plus casser des chiottes.
Exactement. Mais nous, on est assez fans de Depardieu.
J'ai l'impression, ouais.
Voilà. Je vais pas tarder à imposer d'ailleurs une photo dans notre cuisine à ma femme. Mais ouais, du coup, il y a un peu. C'est pour ça que là, en fait, dans nos prochains événements, et on a commencé aussi à le faire à la buvette, je pense qu'on est en train d'essayer de vraiment se trouver une identité. Et en fait, c'est on a vraiment envie de travailler sur le dimanche, en fait. Et il y a ce truc là dans le dimanche qui qu'on adore, c'est-à-dire que c'est vraiment une journée bouffe et c'est vraiment une journée qui parle, je pense, à tout le monde. Et tu vas dans ta famille ou tu vas chez tes copains et en fait tu passes la journée à becter et c'est les meilleurs moments et c'est là où tu peux aussi soit tu ramasses, soit tu picoles, soit tu t'empivres, soit tu peux t'endormir, soit tu peux c'est juste un moment qui fait du bien dans la semaine et du coup c'est un repas plus long, en fait. C'est vraiment le tu sors les rallonges et t'as pas de limite de temps et du coup c'est nous on aime bien on aime bien voilà ce côté profiter vraiment pleinement de ce qu'on mange, quoi.
Est-ce que vous pouvez me raconter une fois où ça a été un peu un fiasco pour vous de cuisiner pour beaucoup? Peut-être que c'est déjà arrivé, genre à un moment, un coup de stress, genre cauchemar en cuisine.
Ouais, notre premier mariage.
Pour combien de personnes, du coup?
Je sais pas, 150, je pense, le mariage de José, ouais. qui est devenu un copain d'ailleurs et qui est passionné de cuisine. C'était notre premier mariage et on était vraiment on l'est toujours, mais on était vraiment des babes, quoi, de la cuisine. On était trop contents parce qu'on venait d'acheter nos premiers chauffe-plats et on avait une grosse quantité de pulled pork et on allait servir dans une demi-heure et à ce moment-là je me rends compte qu'on avait oublié de mettre de l'eau dans les chauffe-plats et que toute la viande était froide, en fait. Une demi-heure avant de servir. Et donc là, c'était vraiment grosse suée. Il a fallu trouver des solutions pour réchauffer je ne sais plus combien de kilos de pulled pork qui était complètement froid et servir à temps. On a réussi, mais maintenant, on a compris qu'il fallait mettre de l'eau dans les, dans les chauffe-plats. C'est pour te dire notre niveau de professionnalisme.
Bon, au moins, le pulled pork n'a pas brûlé ou je ne sais quoi, n'a pas disparu.
On ne lit pas les modes d'emploi. Ouais.
Et puis, en fait, au pire, même servi froid, vous auriez toujours pu dire ensuite, bah, c'est fait exprès.
Non, en fait, c'est hyper bon froid ouais. avec du ketchup. C'est le ketchup qu'on fait nous-mêmes aussi au fumoir. C'est hyper bon. Du mm-hmm. coup, bon, on aurait peut-être pu le servir. Comme ça, ouais.
Parfois, tu rates un truc, mais il n'y a que toi pour le savoir. Ouais, si les gens n'ont pas l'intitulé de base, ils disent, oh, c'est très cool. Et du coup, vous avez un peu tous vos spécialités, les choses avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise individuellement ?
Oui, individuellement, ouais, carrément. C'est assez compliqué de travailler à beaucoup. Nous, on est quand même 5 caractères assez dictateur. Okay. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on ose aussi se dire les trucs. Mmh. Tu vois, j'écoutais l'émission avant que tu avais faite sur le couple et où tu disais « Ah oui, toi, tu fais comme ça. » Nous, ouais. on se parle pas trop comme ça.
C'est bien.
On est un peu...
Non, c'est-à-dire vous êtes plus... vous y allez
on est un
plus,
peu comme
plus
au rugby,
sec.
C'est un peu plus sec.
Genre,
c'est
putain,
un peu
tu
plus
fais
musclé,
chier.
Ouais. Ouais, genre, mais non, fais pas ça comme ça, c'est naze. C'est un peu... voilà, mais ouais, on prend pas trop de pincettes. Mais en même temps, on se perturbe pas les uns les autres et chacun fait son truc, chacun fait son job. On sait très bien là où on est bon et du coup, il n'y a pas de frustration. Chacun est content de faire ce qu'il a à faire et en fait, on va pas du tout se marcher sur les pieds. Mais par contre, on a toujours un œil sur l'autre. Pour l'aider, pour rajouter son grain de sel et être toujours à l'écoute et on a toujours besoin de l'autre pour aller chercher quelque chose pour machin. Donc en fait, on est tous chefs, mais tous commis. Ouais. Mmh.
Au-delà des skills proprement de cuisinier, je pense que c'est ça aussi la différence quand on cuisine pour beaucoup, c'est qu'on, enfin, chacun a d'autres compétences. Au-delà d'une dextérité sur une cuisson, sur un aliment, qui sont hyper importantes, puisque ça fait appel à, comme on le disait au début, à de l'organisation, à une méthode. Et je pense qu'il y en a entre nous qui sont de très bons cuisiniers, mais de moins bons, on va dire, gestionnaires. Donc il y a aussi ces compétences qui sont très importantes, où par exemple, moi je suis incapable de gérer un tableau Excel. Et il le faut vraiment. Et on a des gars qui sont excellents pour ça, pour faire les listes de courses, pour tenir un budget.
C'est hyper important.
Voilà. Donc il y a ces compétences qui sont grave importantes. Moi, je vais peut-être aussi, comme c'est chez mes parents, où on se rejoint, avoir quand même ce truc d'orga, de gérer les prestataires, de gérer l'organisation, le déroulé en fait. Il faut se mettre plein d'alarmes pour gérer, je sais pas, les 20 plats qu'il va falloir sortir dans la journée et donc que tout soit minuté, même si on n'a pas encore une organisation professionnelle, on apprend par nous-mêmes. Mais il y a ces compétences qui sont très importantes au-delà de... Et je pense que c'est ça qu'on a découvert, c'est cuire un bon steak, c'est bien, mais faut le sortir en même temps que plein d'autres choses, dans un lieu que tu connais pas, en ayant passé une journée de trajet... Et c'est pas qu'un steak, c'est pas que 10 steaks, ça va être 50, 150 steaks.
Après notre enregistrement, Nico et Pierre m'ont raconté comment leurs expérimentations en cuisine ont un jour bien enfumé la maison des parents de Pierre à Bouzy. Les Bouzy Boys Barbecue tenaient donc à profiter de cet épisode pour saluer Martine et Rouliane pour leur patience, leur gentillesse et leur accueil. Sans eux, les Bouzy Boys Barbecue n'existeraient peut-être pas. Quand on regarde les profils de nos deux invités du jour, il est intéressant de noter qu'à chaque fois, il est question d'une bande de potes dont la cuisine n'est pas le métier d'origine. Intéressant aussi de noter que, si à l'échelle d'un foyer, la répartition des tâches domestiques fait souvent de la cuisine un espace investi par les femmes, médiatiquement, on trouve encore une majorité d'hommes porteurs de projets liés à la bouffe. Mais ces scènes sont en constante reconfiguration et c'est palpitant à observer. Merci à Jordan, les frères Lomière, Nico, Pierre et les Bouzy Boys Barbecue de nous avoir donné de leur temps pour parler du fait de cuisiner pour beaucoup. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Lextari, montée par Marine Rowe, programmée par Cassandra de Carvalho, mixée par Charles de Silla et coordonnée par Laura Cuissard avec l'aide de Clara Maté. À mercredi prochain, mais avant ça, à lundi pour un dernier épisode Bouffon de la débrouille, notre série spéciale confinement.